La précarité alimentaire touche de plus en plus de monde. Ça se vérifie chez nous. Le secteur de l'aide alimentaire est de plus en plus sollicité. Une augmentation de 40% ces dernières années. C'est le cas ailleurs aussi, bien sûr, et notamment en France, où plus de 8 millions de personnes sont touchées par cette précarité alimentaire. Le chiffre a été martelé en septembre dernier par les Restos du Cœur, association emblématique, évidemment, de l'aide alimentaire en France. L'association qui appelait alors à un sursaut national, parce que chacun peut un jour se retrouver à faire la queue pour un colis alimentaire. Depuis la fin de la pandémie de Covid, cette précarité alimentaire n'a d'ailleurs jamais été aussi forte chez les étudiants en particulier. Alors pour lutter contre cette situation, des réflexions politiques et citoyennes sont menées partout en France. Comment repenser l'aide alimentaire? Comment réduire les inégalités d'accès à une alimentation saine et de qualité? Ce reportage de Clémentine Métainier nous emmène à la rencontre d'acteurs et d'actrices qui agissent pour que l'alimentation soit l'un des fondements de la dignité humaine et par ailleurs un véritable projet politique.
On a commencé, hein?
Attends, c'est pas encore fini. On va prendre les fjords, là. Dès qu'on a fini là, on prendra cela. N'oublie pas.
Chef, mon cœur.
Il est 7h du matin et Ahmed s'active depuis plus de 3 heures. Lui et d'autres bénévoles sont à pied d'œuvre pour terminer de préparer la distribution alimentaire hebdomadaire. Dans le 14e arrondissement de Marseille, situé dans les quartiers nord, s'opère chaque lundi la plus grande distribution alimentaire de la ville. Une immense queue s'allonge d'heure en heure. Elle atteindra presque 800 personnes en fin de matinée.
Là, il est 7 heures. Il y a des gens qui sont là depuis...
Depuis 4 heures.
4 heures du matin.
Ouais, j'étais là à 4 heures. Peut-être plus de 10 personnes. Des femmes âgées. En train de discuter, en train de rigoler.
Pourquoi elles arrivent si tôt?
Malgré la pauvreté, mais t'as vu, les rigolent. Les heureux.
À quelle heure tu es là? À quelle heure tu viens le matin?
Je suis sortie de chez moi à 4h.
À 4h?
Ouais.
Waouh! Wow. À 4h?
C'est pas trop!
Ah ouais?
8 millions de personnes sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire en France. Dit autrement, plus de 11% de la population ne peuvent pas se nourrir comme ils le souhaiteraient. Dans son enquête publiée en 2023, « Quand bien manger devient un luxe, en finir avec la précarité alimentaire », le journaliste Benjamin Seize a documenté ce que la précarité alimentaire en France veut dire.
Une des premières choses qui m'a marqué et qui a marqué beaucoup de Français au moment du Covid, parce que c'est quelque chose qui a surgi au moment du Covid, c'est en fait déjà de découvrir qui était concerné par le recours à l'aide alimentaire et par la précarité alimentaire. C'est-à-dire que je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de Français, y compris dans le mien, on imaginait l'aide alimentaire vraiment comme un peu la distribution, la soupe populaire ou la distribution de colis aux plus marginalisés de notre société. Vraiment une aide d'urgence qui concerne quelques centaines de milliers de personnes et qui sont vraiment les gens à la rue, les gens les plus précarisés, les plus marginalisés. Donc déjà, ce qui m'a marqué, c'était de découvrir que en fait, ça concernait monsieur et madame tout le monde. La personne retraitée de 79 ans qui vit dans son petit pavillon à la campagne, qui a bossé pendant 35 ans dans l'aide à la personne, mais qui du coup, du fait de ce métier qui est mal rémunéré, se retrouve avec une retraite de 700 euros et qui ne peut pas se nourrir si elle ne va pas à l'antenne du Secours catholique du coin. C'est l'étudiant de la classe moyenne, dont la mère bosse mais elle est au SMIC, qui est obligé d'aller dans les épiceries sociales ou alors de manger que des pâtes et de rationner les pâtes en fin de mois parce qu'il ne s'en sort pas financièrement, parce que les bourses étudiantes aujourd'hui sont sous-évaluées par rapport aux besoins réels du fait du coût de la vie, du fait de la précarisation des parents qui ne peuvent plus aider leurs enfants comme ils le pouvaient avant, etc. C'est vraiment de découvrir aujourd'hui l'espèce de banalité des ménages qui sont concernés par cette aide qui, elle, pour le coup, n'est absolument pas banale.
Lorsque notre cher président nous a dit qu'on est en guerre, nous, enfants des quartiers, on sait faire la guerre contre la misère. On sait tendre la main à son prochain. Et c'est cette cause-là, en fait, qui m'a approché de l'ancien McDonald's, qui m'a permis d'être au service du peuple
de façon à ce qu'on puisse travailler tous ensemble et face à l'urgence alimentaire et sociale.
Quand le Covid est arrivé, comme l'explique Mohamed, cet habitant du quartier et bénévole de la Préhem, il a fallu s'organiser. C'est toute l'histoire, hors du commun de ce lieu. Un ancien restaurant McDonald's, qui depuis 1992 était le principal pourvoyeur d'emploi du quartier, récupéré par les habitants marseillais et transformé en fast social food. La photo du McDo, repeint en bleu, rose et violet, le toit surmonté du M jaune, bien connu de la multinationale, a fait le tour de France. Pour ceux qui ont rejoint l'aventure, comme Lila, bénévole depuis 3 ans, la Préhem incarne tout ce qu'une lutte sociale a de plus collectif et solidaire dans un quartier populaire.
L'histoire, elle a commencé par une demande à McDonald's pour ouvrir le lieu et pour le mettre à disposition des personnes dans la précarité parce qu'il y avait une urgence sociale. McDonald's a refusé. Donc les salariés, accompagnés des habitants du territoire, d'associations, de collectifs militants, d'organisations syndicales, ont fait une réquisition citoyenne du lieu pour pouvoir le mettre au service du peuple.
Vous dites du peuple.
Enfin, le peuple, c'est vaste en fait. Moi, j'aime pas trop sectoriser, dire les personnes en précarité, les personnes... Voilà, le peuple. Le peuple qui avait besoin à ce moment-là de soutien, que ça soit un soutien avec de l'aide alimentaire, mais aussi un soutien psychologique, parce qu'il y a des personnes aussi qui passaient parce qu'ils avaient peur de tout ce qui se passait. Donc il y avait quand même du lien social qui s'est créé. On veut que ce lieu, ça soit un lieu qui redevienne la place du village d'antan, parce qu'il faut savoir que dans ce secteur qui est en grande précarité, il n'y a pas d'endroit comme ça avec une grande terrasse pour pouvoir se poser, boire un coup, manger une glace. Et ce lieu de rencontre, de partage, et ce lieu, au temps de McDonald's, occupait cette place.
Ça s'est bien passé. Après, il y a pas mal de gens qui demandent du café. Du coup, le plan, avoir de quoi faire du café, je pense que ce serait top. Peut-être faire...
Créer du lien, mais surtout mettre la dignité au cœur du projet. La distribution alimentaire, née il y a 3 ans et qui perdure aux côtés du restaurant, et pour tous ceux qui en ont besoin, sans condition de ressources. Tanina est une des piliers du projet. Bénévole, elle est depuis peu salariée.
Ce que je trouve intéressant ici, depuis le début, depuis la première fois que j'ai assisté à une distribution alimentaire, c'est que c'est un endroit où les gens, quand ils viennent chercher leur colis, ne baissent pas les yeux. Ou alors, et c'est rigolo parce que les gens qui font les inscriptions ici, ils disent ça, les gens qu'on voit arriver et on voit qu'ils ont un peu honte, ils baissent les yeux. Le premier truc qu'on leur dit, c'est « Oh, non, ici, c'est pas, il n'y a aucune honte à avoir et on reste digne. » Je crois que c'est... Et, depuis le début, les premiers travailleurs ici qui se sont syndiqués, c'était ça, c'était le fait de dire on n'est pas là de passage, là qui ont travaillé ici pendant 20 ans, on ne veut pas être payé au lance-pierre ou je ne sais pas quoi, on veut des droits, on veut... Et du coup, la question alimentaire, je pense qu'elle s'est imposée parce qu'au moment du Covid, très rapidement, je pense qu'il y a eu cette idée que c'était une première étape, c'était répondre à une urgence dans un contexte d'urgence. Bien sûr, c'est fondamental, mais très vite, c'est comment est-ce qu'on va attaquer la racine du problème, quoi. Et la racine du problème, c'est la question de l'accès aux ressources.
Pour tous celles et ceux qui réfléchissent et s'engagent dans la lutte contre la précarité alimentaire, la dignité reste la matrice des projets. La docteure en anthropologie sociale, Bénédicte Bonzi, a théorisé le concept de violences alimentaires que subit le public bénéficiaire de l'aide alimentaire. Dans son livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires » publié en 2023, elle retrace et analyse les mois passés au sein d'une antenne des Restos du Cœur, association emblématique de distribution alimentaire en France.
Moi, dans mon travail d'anthropologie, je suis venue décrire ces effets sur les personnes. Et les rendre visibles dans cette idée, en fait, de montrer qui était responsable. Et c'est ça qui est important dans cette description, d'avoir en perspective ce principe de responsabilité. Et je l'ai fait en m'inspirant beaucoup des travaux de Deborah Pouchoden sur la mafia, qui vient nous dire, dans la mafia, finalement, celui qui tire les ficelles, il n'est jamais responsable, il est invisibilisé par le reste de la chaîne. Et alors, hélas, on en arrive à ce triste parallèle de se dire « mais ça fonctionne comme une mafia ». Et en effet, on arrive sur la description d'un marché immoral de la faim qui nous montre en fait comment on utilise les pauvres, la pauvreté comme variable d'ajustement du système sans penser en fait leur place dans la société, sans leur donner un rôle à jouer, un retour. On ne s'appuie pas du tout sur leur capacité, on ne les considère pas. On se dit, bah voilà, on va utiliser un principe de défiscalisation, on va faire circuler des échanges monétaires entre richesses finalement, mais on ne va surtout pas changer la situation de ces personnes-là.
Ce à quoi Bénédicte Bonzi fait allusion, c'est au système de l'aide alimentaire qui perdure. Jusqu'au début des années 2010, l'aide alimentaire en France reposait principalement sur l'écoulement des surplus agricoles au niveau européen. En 2010, face à la diminution des stocks européens, le troc est remplacé par des achats directs auprès des industries agroalimentaires via le fonds d'aide aux plus démunis. Le but, lutter contre le gaspillage alimentaire via la loi Garot, qui depuis 2016 oblige les supermarchés à reverser ces invendus alimentaires à une association caritative, bénéficiant ainsi d'une réduction d'impôt de 60% sur la valeur du don. Les structures d'aide alimentaire sont donc devenues des acteurs de lutte contre le gaspillage alimentaire au détriment de celles contre la précarité. L'État n'aurait donc aucun intérêt à remplacer l'aide alimentaire par une politique sociale, c'est ce que démontre Bénédicte Bonzi.
Dans le rapport de la Cour des comptes de 2008 sur l'aide alimentaire, il y a un mot fort qui est posé, c'est que le système de l'aide alimentaire est efficient. Il est efficient parce qu'il coûte pas cher par rapport aux services qu'il rend. Donc en effet, pour l'État, en fait, on va continuer à fonctionner de cette manière-là et même utiliser ce fonctionnement. Parce que la précarité des structures permet que quand elles répondent à ce qui pour elles est très important, eh ben, elles ne sont pas en train de se rebeller contre l'État. C'est cynique hein, de le dire comme ça, mais comment le penser autrement? Ils savent et ils font ce choix en fait, de laisser les associations dans la précarité, de laisser les Restos du Cœur avec un trou de 35 millions en disant on en appelle aux forces économiques. Ce n'est pas du tout des choix anodins. Ils savent et pourraient en fait aller beaucoup plus loin sur le fait de sortir d'une économie qui, de toute façon, ne conduit qu'à des conflits et à de la guerre, puisqu'elle est inégalitaire.
Malgré tout, au sein des associations nationales d'aide alimentaire, cette réflexion menée pour réduire les inégalités est partagée par des bénévoles engagés eux aussi dans les distributions. À l'instar de Françoise Dessertine, présidente des banques alimentaires de l'Isère.
Donc le sujet pour demain, c'est toutes ces populations, on ne peut pas les stigmatiser, mais absolument pas, mais les pauvres gens qui se retrouvent dans cette détresse-là, mais aidons-les. Parce qu'ils doivent se demander ce qu'ils ont fait à la terre, à la société, pour se retrouver dans un drame pareil. Moi, j'imagine une maman qui n'arrive pas à donner à manger à ses enfants. Mais c'est quelque chose, on vous arrache les tripes quand on fait un truc comme ça. Donc, le vrai sujet pour moi, c'est de dire, bon, aujourd'hui, il faut répondre à ça, parce qu'on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. On le voit tous les jours. Et comment, avec toutes les associations qu'on accompagne, tous les acteurs de terrain, on fait en sorte pour que ces populations qui sont obligées d'adresser l'aide alimentaire, on préserve leur dignité, on préserve une alimentation de qualité, variée, un potentiel de choix. Oui, multiplions des modèles qui laisseront plus de choix, qui laisseront plus de dignité, qui laisseront plus de respect, mais faisons-le de façon réaliste. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'une épicerie, comme j'en ai visité une il n'y a pas longtemps, où les haricots verts sont à 8 euros le kilo, tarif préférentiel 6,50 euros, moi je m'excuse, mais en fait on n'a pas compris pourquoi on était là et c'est pas de l'aide alimentaire qu'on est en train de faire. Et ayons une offre véritable. Et après, il y a aussi toutes les mesures qu'on appelle d'accompagnement, c'est-à-dire que on a monté dans la Bièvre, qui est une région du Nord-Isère, avec une association. Cette association, elle a des bénéficiaires de tous âges. Elle a des jeunes, des vieux, des moyens. Elle a des agriculteurs tout autour de chez elle. Eh bien, on met en relation les bénéficiaires et les agriculteurs. Et donc, elle crée des groupes de bénéficiaires en fonction de leur appétence, leur disponibilité, leur etc. Elle met ensemble les jeunes, les vieux, etc. Et elle va organiser des opérations de glanage. Les bénéficiaires, ils ont vu autre chose, ils ont rencontré d'autres gens, ils ont été utiles. les légumes qu'ils ont ramassés, ils vont les consommer. Le paysan, il n'a pas passé sa récolte à la herse, parce que sinon c'est ça qui se passe, il détruit la récolte. Donc ça le rend malheureux parce qu'il a travaillé et il détruit le fruit de son travail. Et on a offert une diversité de légumes qu'il n'y a pas forcément autrement. Et donc, comme souvent, il y a trop de... Ils ramassent trop. Ben nous, on envoie un camion, deux camions, des caisses, on récupère, on distribue aux autres. Enfin voilà, je veux dire, on est dans la solidarité.
Oui, oui, ça m'est déjà arrivé de le faire. J'ai déjà été au Resto du Cœur et même au Secours Populaire. Parfois, ça a été humiliant, surtout quand on rencontre les bénévoles qui n'ont pas ce tact de comprendre nos difficultés. Donc on a l'impression en fait, d'être jugé. Et puis parfois, pour 7 euros de trop, ouais, vous ne passez pas. Vous avez 7 euros de trop. D'accord, ok.
Je rencontre Samira à Montpellier. Elle est en train de préparer des galettes algériennes pour l'événement du jour, l'Assemblée citoyenne de l'alimentation. Montpellier est la première ville à avoir mis en place une expérimentation de caisses alimentaires citoyennes. Le principe, chaque participant cotise librement chaque mois selon ses moyens et reçoit en retour une allocation alimentaire de 100 euros par mois utilisable dans des commerces conventionnés.
L'enjeu de cette expérimentation, c'est de faire de l'alimentation un sujet de démocratie et d'expérimenter de nouvelles manières de lutter contre les inégalités alimentaires, tout en favorisant un système alimentaire plus durable, en termes de santé, d'environnement, mais aussi de dignité. Aujourd'hui, la caisse, c'est 346 personnes inscrites. Donc on a commencé en février, avec les 50 personnes du comité citoyen, 47 pour être précis, auxquelles s'ajoutent une cinquantaine de personnes qui viennent de partenariats du monde social. Et ensuite, il y a eu le tirage au sort. Donc tout ça, ça nous fait environ 350 personnes, 346 pour être précis. La cotisation moyenne, elle est de 60 euros. Donc c'est ce qui permet de dire qu'il y a à peu près 60% du budget de la caisse qui est assuré par les cotisations. Au total, ça fait 56 000 euros de cotisations qui ont été versées dans la caisse. Et avec la Mona que vous avez touchée, vous avez dépensé 80 000 euros d'achat en Mona dans les différents lieux conventionnés. Voilà, si vous avez des questions un petit peu pour revenir sur les chiffres, on pourra le faire tout à l'heure. Il y aura des temps d'assemblée et des temps d'échange, donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler l'assemblée.
C'est vraiment pour ça que je suis investie dans le comité citoyen, parce que justement, on a notre mot à dire. Et on dit réellement ce qu'on veut, ce qu'on pense qui est juste, ce qu'on pense qui nous représente. Mais on est piloté quand même. Ouais, tout ce que je sais, on va dire au jour d'aujourd'hui sur le bien manger, c'est avec ce comité citoyen Territoire à vivre que je l'ai appris, que je vais dire qui est ancré en moi et que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants.
Par là.
Bon allez, qu'est-ce qu'on fait ?
Moi le mamie là, ça me
pomme de terre.
Je sais pas qui m'appelle le mamie.
On peut faire ça. Mettez pas la main au verre, hein.
Il y a un gros couteau, hein.
Cette initiative locale est l'une des plus abouties des projets de sécurité sociale de l'alimentation. Elle reposerait sur trois piliers. L'universalité de l'accès, le conventionnement avec des producteurs et des distributeurs organisés de façon démocratique et le financement par la cotisation sociale. Sur le modèle du régime général de la sécurité sociale, elle pourrait être une branche à part entière de la sécurité sociale de la santé. Le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation a vu le jour en 2019. Dominique Paturel, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, est l'une des chevilles ouvrières de ce mouvement. À l'initiative, avec d'autres chercheurs et chercheuses, de la notion de démocratie alimentaire qu'elle appelle de ses voeux.
Ce qui est nouveau et qui est vraiment, à mon sens, le plus important, c'est le récit politique qui est en train de se construire là-dessus et qui, je pense, va faire système politique. Mais je veux dire, on est au début et on a 25 ans de travail derrière pour arriver à ça. Donc, un quart de siècle, d'accord ? Et donc, un quart de siècle, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre en deux ans, comme c'est le cas par rapport au collectif SSA. En même temps, on voit bien qu'il y a une accélération qui se fait, parce que moi, je vois, par exemple, à l'intérieur du collectif, moi, je n'étais pas non plus très... Enfin, je ne pensais pas qu'on arriverait aussi vite à ce qu'il y ait un processus démocratique qui se mette en place, par exemple, sur la question de la prise des décisions. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'inventer, que moi je trouve assez nouveau, sur la façon de penser la prise de décision, l'espèce d'écosystème démocratique qui est en train de se mettre en place, qui est difficile à faire comprendre. D'abord, un, qui n'est probablement pas visible à l'extérieur du collectif, et c'est ça. Déjà, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, qui en soi nécessite des ajustements permanents. Et ce qui est quand même extrêmement important, c'est que ce processus démocratique, il est beaucoup porté évidemment par les plus jeunes. Et il y a quelque chose qui est en train de s'inventer, moi je trouve, sur un continuum entre une vision binaire qui consiste à dire on est pour, on est contre, et une vision qui consiste à dire tout est ouvert et on peut tout faire. Et qui est assez, enfin moi que je trouve assez passionnant.
Au départ, quand le projet s'est lancé, je me disais on va où est-ce qu'on va pouvoir juste changer les mentalités? Et aujourd'hui, je me dis mais waouh, on est où? Qu'est-ce qu'on a fait? Le chemin qu'on a parcouru, il est immense quoi.
Parce que le but c'est quoi en fait?
Ben le but c'est que tout le monde mange bien, que tout le monde ait accès à l'alimentation et saine et durable, et pauvre, riche, tout le monde quoi. Voilà, une sécurité de l'alimentation. Voilà. Je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire.
Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Valence, Paris, la dynamique des caisses alimentaires se multiplie aujourd'hui en France et pourrait bien un jour faire naître une véritable sécurité sociale de l'alimentation.
On peut les couler et les laver après.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Sans les couper. Voilà.
Est-ce qu'il y a des économies ?
Et on les recoupera après quand elles seront propres.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.